Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Nous sommes le 1er décembre, ce samedi noir qui marque un tournant dans le mouvement des Gilets jaunes. Des scènes qualifiées de guérilla urbaine, l'Arc de Triomphe tagué et abîmé, des voitures incendiées, des magasins pillés, des policiers caillassés et blessés. Les forces de l'ordre sont devenues la cible de la colère, car ce sont en quelque sorte les seuls interlocuteurs, les uniques représentants en chair et en os de cet État qui n'écoute pas, qui ne répond pas et réprime. Du point de vue strict du droit, le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable, comme la majorité des manifs des Gilets jaunes, est un délit pénal punissable de 6 mois de prison et de 7 500 € d'amende. Mais seul l'organisateur est responsable. Les manifestants ne le sont que lorsqu'ils ne se dispersent pas après sommation, un délit punissable d'un an de prison, ou qu'ils attaquent la force publique. De fait, et c'est toute la complexité, les Gilets jaunes revendiquent le caractère spontané, citoyen, sans direction ni représentant de leur mouvement. Donc ils ne déclarent pas les manifs, les organisent à peine et n'acceptent pas de se disperser. Certains attaquent les forces de l'ordre, on ne peut pas dire le contraire. Ils sont donc évidemment en train de commettre des délits. D'un autre côté, ce 1er décembre par exemple, d'après une source policière citée par l'AFP, il a été lancé plus de 14 000 grenades lacrymogènes, dont 339 grenades GLIF-4 et 1193 tirs aux lanceurs de balles en caoutchouc. À quoi il faut ajouter les chiffres des gendarmes mobiles, nombreux ce samedi 1er décembre, et ceux d'autres unités de commissariat appelées à la hâte. La grenade GLIF-4 est une grenade assourdissante et lacrymogène interdite partout ailleurs en Europe. Composée de 25 grammes de TNT et d'une charge lacrymogène, elle fait autant de bruit qu'un avion au décollage lorsqu'elle explose. Si on en croit Libération, l'État aurait confirmé que le projectile allait être remplacé, mais tant qu'elle est autorisée, elle ne doit techniquement pas être lancée dans une rue étroite, en raison de l'effet de caisse de résonance, et ne doit être tirée qu'au sol et non sur des manifestants. Or, on le sait, elle est responsable à Notre-Dame-des-Landes, à Bure, le 1er décembre et d'autres jours, de mains et de pieds arrachés, d'yeux crevés et d'autres blessures encore. Tout de suite donc, dans les pieds sur terre, focus sur la GLIF-4 avec 3 personnes blessées ce 1er décembre à Paris. Et c'est un récit que raconte Élodie Maillot.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Roux Christophe, je suis papa de 6 enfants. J'habite entre Carcassonne et Limoux. Je suis auto-entrepreneur, je répare des smartphones et je vends des baskets. Donc le 24 novembre, j'ai décidé de monter à Paris pour la première fois. C'était la première manif que je faisais. On est arrivé en bas des Champs-Élysées, donc il y avait des CRS, des gendarmes de partout. Je savais pas trop comment ça allait se passer. Et là, j'ai vu déjà au bout d'une heure, une heure et demie, qu'ils allaient être violents, quoi. Et là, ça a commencé, en fait. Ils nous ont enfermés en bas des Champs-Élysées. Et vers 9h30, 10h, ils ont commencé à gazer alors qu'on leur demandait tout simplement de retirer leur casque et de se joindre à nous, quoi. Donc voilà, cette journée elle s'est passée, moi je suis resté devant les forces de l'ordre toute la journée, en leur parlant, en leur demandant d'arrêter leur violence, pas méchamment, pas avec les poings ni rien, en disant arrêtez-vous quoi, venez avec nous, arrêtez-vous. Et le premier CRS qui m'a couru après, c'était vers midi, parce que ça faisait 3 heures que je leur mangeais le cerveau à son équipe et tout, que j'arrêtais pas de les titiller et dire ouais t'as pas une grand-mère qui touche 700 €, t'as pas des filles, t'as pas machin, sachant que moi j'ai 5 filles et pour un métier égal, un diplôme égal, elles vont toucher moins qu'un homme plus tard. Et moi tout ça c'est une de mes revendications quoi. La grand-mère de ma femme elle touche 700 €, on peut pas vivre avec ça. Donc moi j'aimais bien être nez à nez avec eux et voilà leur dire ce que je pense quoi. Il y a pas de peur, il y a rien, c'était Je sais pas, il y a tellement d'adrénaline, de toute façon, que je sais même pas ce qu'on ressent, en fait. Et à un moment, il y a un des chefs, là, et il me regarde, il vient avec la gazeuse, il me dit « je vais te gazer, première sommation !» J'ai dit « j'ai le droit à combien de sommations ?» en rigolant. Et là, du coup, il a pété les plombs, il m'a couru après, et moi, ils avaient fait des barricades et tout, machin, et du coup, j'ai eu du mal à passer au milieu des champs. Et après, ouais, c'est parti en sucette, c'était vraiment l'affrontement, après... Et je vous dis, moi, c'était à l'affrontement, mais pas physique. J'avais envie qu'ils nous aiment, ces gens-là, moi, et pas qu'ils nous tabassent, en fait. J'avais envie qu'ils changent de point de vue, j'avais envie, voilà. Je voulais pas tout ça, quoi, en fait. Donc le lendemain, je suis rentré chez moi, ma femme elle est venue me chercher à la gare à Carcassonne, et ouais, je me suis écroulé comme un bébé, quoi, en fait, dans la voiture. J'ai pleuré dans la voiture, quoi. Enfin, j'ai revu tout ce qui s'était passé la veille, en fait. J'ai dit à ma femme que c'était triste, que je pensais pas voir tout ça. Non, je pensais pas, ouais, je pensais pas. Et je dis déjà à ma femme, je remonte. Moi, j'étais persuadé que ça allait être la révolution, entre guillemets, quoi. Qu'on allait les sortir de là-bas, tous ces privilégiés, mais gentiment, qu'ils allaient sortir de l'Élysée, de l'Assemblée, qu'ils allaient sortir, que ça allait être enfin des hommes, ces gens. Qu'ils allaient venir s'expliquer avec nous et que même à l'arrière, qu'ils allaient démissionner, quoi. J'ai dit à ma femme, moi, il faut que j'y sois. Je suis sûr, ils vont sortir. Il faut que je sois là. Il faut que je sois là. Il faut que je sois là. Du coup, le premier, j'avais envie de remonter pour en découdre, mais pas avec les poings, ni avec des pierres, ni machin, pour en découdre avec des mots, pour en découdre, montrer que j'étais là et que j'avais pas peur, en fait. Et malgré, que ma femme me l'ait interdit, entre guillemets, quoi. Elle a cherché tous les subterfuges, en fait, pour pas que je monte, que ça allait servir à rien, que de toute façon, nous, ça nous apporterait rien, que ça faisait des années que c'était comme ça. Et donc, après, je suis monté quand même, je suis monté en camion. Tous les gens du Sud et tous les gens qui venaient de Bretagne, etc., voilà, c'était donné rendez-vous à Bastille via Facebook. Et j'ai ma femme au téléphone et qui me dit « Ouais, Christophe, à l'Arc de Triomphe, ça y est, ils sont en train de se faire gazer, ils leur jettent des grenades dessus et tout. » Puis moi, je sentais que j'avais besoin d'aller là-bas pour les aider, pour les faire sortir, pour faire péter ces cordons de CRS, en fait, quoi. Parce que moi, je me dis, si on arrive, qu'on avance sur eux, on est 1000 ou 2000 en avançant pacifiquement. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils nous fassent? À chaque fois, c'est des cordons de CRS qui sont 10 ou 20. Voilà, ils vont reculer au bout d'un moment, c'est obligé, c'est obligé. Et j'arrive à chauffer une centaine de personnes pour leur dire ouais qu'ils m'aiment me suivre, entre guillemets, quoi. Donc on est parti de Bastille à pied. On est arrivé à l'Arc de Triomphe. On était peut-être, sans faire le Marseillais, entre 1000 et 2000. On fait chanter les gens, on chante la Marseillaise. Il n'y a personne qui casse quoi que ce soit sur le trajet. Voilà, de toute façon, tous ces gens, ils sont pas là pour ça. Et donc on arrive à l'Arc de Triomphe. Et là, je vois que ça a chauffé déjà, quoi. Et là, je vois qu'il y a déjà des CRS. Et j'y vais, je leur propose une cigarette, ironiquement, en leur disant que la journée, elle va être longue, quoi. Et bon, il me fait reculer. Enfin, voilà, parce que moi, je suis plus un chambreur qu'un tapeur, en fait, quoi. Et du coup, je leur offre une rose. Parce qu'ils ont pas voulu la cigarette. Je vois un couple qui passe avec cette rose et je leur offre une rose. Pour dire que je suis arrivé pacifiquement, moi. Et ils ont recommencé à nous gazer de plus belle, à nous faire partir de là. Enfin, voilà. Ma femme, elle m'appelle, elle me dit « Chris, il faut que tu partes. Ils viennent de dire à BFM et les autres chaînes de télé que dès que la nuit va tomber, ben en fait, ils vont tout faire pour nous faire partir. » Moi, je lui dis « Bébé, j'ai pas peur, t'inquiète pas. C'est si on veut les choses qu'il faut rester, quoi. Il faut leur tenir tête une bonne fois pour toutes. » Parce que moi, je pensais que même à les 2-3 000 qui restaient sous l'Arc de Triomphe, moi, je pensais qu'on allait pouvoir faire quelque chose quand même, voilà. Mon rêve, c'était que Macron, il dise « Ouais, bah, c'est bon, vous m'avez saoulé, les gilets jaunes, j'ai compris, je démissionne, voilà. » Et à un moment, ouais, vers 6h25, là, c'est parti. Je dis là, ils vont nous massacrer. Là. On entend des détonations de partout. On est dans la fumée des gaz lacrymogènes. J'ai dit, ma femme, elle avait raison. Et il y a un gars qui vient me chercher et qui me dit, il y a un gars qui est tombé. On dirait il est mort, quoi. Donc, on se met sur le côté. Là, on essaye de le réveiller. Y en a un qui lui met 2-3 calbottes et tout machin pour essayer de le réveiller. Je pense pas que ce soit le bon moyen. Il y en a un qui lui vaporise un coup d'eau avec un jet. On voit qu'il se réveille pas, donc on décide de l'extraire de là, quoi, parce que ils étaient encore en train de nous tirer dessus alors que ce jeune était dans le coma, quoi. Donc on décide de l'extraire. Et à un moment, je sais pas pourquoi, je me retourne et là, bam, j'ai une grenade qui me pète dans les jambes. En fait, pendant qu'on était en train d'extraire le gars, et donc ça pète sur moi, quoi. Apparemment, ça serait la Glie F4. Et là, perte d'équilibre, je sais même plus où je suis, quoi, en fait. Et des sueurs qui me montent, chaud, très chaud, très chaud. Je comprends pas ce qui se passe. La première chose à laquelle j'ai pensé, en fait, c'est mes 5 filles et ma femme qui étaient derrière l'écran. J'étais en direct sur Facebook avec le téléphone au moment où je me prends la grenade, etc. Et là, ça s'est mis à crier, à pleurer à la maison. Enfin, j'ai la troisième que j'étais mort, quoi, en fait. Enfin, voilà.
Pourquoi vous vouliez qu'elle voie tout ce que vous faisiez?
Ben, parce que c'était plus pour leur montrer qu'il m'arriverait rien, en fait. J'ai plus de 17 impacts de grenades dans les deux tibias, un impact sous le talon, des bouts de grenades dans le genou et sur le devant du pied. De toute façon, ils m'ont dit, monsieur Roux, c'est comme une blessure de guerre, en vrai. Je prends ça dans la figure, je suis pas là pour en parler, ça c'est sûr, de toute façon, c'est sûr. À l'hôpital, ils me disent que depuis le début de la matinée, ils arrêtent pas de voir des gens passer, des papis, des mamies, des jeunes, des moins jeunes, enfin voilà. En rentrant, je leur ai dit pardon à ma femme et mes enfants. J'ai dit j'aurais dû t'écouter. J'ai mes filles qui m'ont serré dans les bras. Et quand même, dans mon malheur, j'ai de la chance. Parce que bon, il y en a qui ont perdu leurs mains, il y en a qui sont défigurés. Moi, c'est aux jambes. Donc ça se verra moins qu'eux déjà. Et c'est plus dans la tête, quoi, en fait. C'est vrai que les 10 premiers jours, là, j'avais du mal à dormir. J'étais en état de siège chez moi le soir. Ben, y en a qui venaient défoncer ma porte dans mes cauchemars. J'avais l'impression de tenir la porte pendant 2-3 heures. Et au moment où j'ouvrais la porte, à chaque fois, c'est des gens qui me caillassaient, qui me tiraient dessus. C'était horrible. Je pars en sanglots, je suis pas bien. Dès que j'irai mieux, j'y retournerai. Parce qu'ils me font vraiment pas peur, ces gens. C'est plus mes cauchemars qui me font peur. Mais je m'en fous d'avoir des cauchemars, en fait. J'ai envie de changer le monde. On a retrouvé de la fraternité. À une époque où les gens ils se parlent plus, là maintenant les gens ils recommencent à se parler, ils recommencent à se côtoyer. Et je pense que c'est ça qui fait peur. C'est l'union. Une unité, ça fait peur.
Je m'appelle Maxime, j'ai 30 ans et je suis cadre donc dans une grande entreprise française. Je suis chef de projet sur des thématiques liées au milieu de l'énergie. Le 24 novembre, samedi, c'était une journée pour nous assez ordinaire. Hein. On est parti, on a déjeuné le midi avec mon père. C'était prévu depuis une semaine. On a déjeuné dans le secteur des Invalides. Et c'est vrai qu'après, dans l'après-midi, en fin de journée, on est allé un peu traverser la Seine et rejoindre un peu ce secteur-là où il y avait les manifestations. À titre personnel, ma femme et moi, on est totalement solidaires du mouvement des Gilets jaunes et des différentes revendications induites sur la notion d'injustice sociale, injustice fiscale. On est solidaires de ce mouvement-là et donc on avait envie de voir ça de plus près. Après, c'est vrai que ma femme étant militaire, il y a une forme de devoir de réserve, on voulait pas non plus porter de gilet jaune, et donc c'est pour ça qu'on était plutôt, j'ai envie de dire, dans une posture basse. On vient de se marier il y a 2 mois, Je suis cadre, enfin voilà, donc on était dans une logique assez calme. On s'est rapproché de la zone des manifestations, on a pu observer un peu ce qui se passait. On était sur la fin de la manifestation, les Champs-Élysées qui finissaient d'être évacués, des derniers manifestants, la circulation qui reprenait, rien de violent, rien dans l'affrontement, rien dans l'invective, même verbale, vis-à-vis des forces de l'ordre. Et là, à ce moment-là, il y a eu des jets de gaz lacrymogène, dans une logique, voilà, d'évacuation. Ce qu'on s'est dit, c'est que... Il était 19h30 environ, donc a priori il devait y avoir des consignes pour 20h, plus aucun manifestant. Et si vous voulez, là sur notre droite, il y avait la rue de Tilsit, qui est cette rue un peu circulaire qui rejoint justement les différentes avenues de cette place de l'Étoile. Et là, nous, on est rentré un peu dans cette rue parce qu'il y avait les gaz lacrymogènes qui redescendaient avec le vent là le long de l'avenue de Friedland, donc c'était un peu plus pour nous abriter. Et de l'autre côté, donc au niveau du cordon, c'est là où ils ont tiré cette fameuse grenade explosive en notre direction. Et donc, grenade qui arrivait au niveau de mes pieds, et vu la situation qui n'était pas du tout une situation tendue avec des affrontements ou autre, j'ai pas imaginé une seule seconde que ça puisse être quelque chose qui, voilà, avec ce niveau de dangerosité qui explose. Et c'est vrai que du coup, bah, juste un peu naïvement, je me suis un peu penché dans la direction de cet objet, ce cylindre gris d'une dizaine, douzaine de centimètres qui est venu mourir à mes pieds. Et donc, je me suis un peu penché avec la main droite vers l'avant, et là, elle a explosé. Et donc ça a fait un énorme flash, une énorme détonation. Et ma main était à une vingtaine, trentaine de centimètres. Et elle a été littéralement carbonisée sur la face intérieure et avec des éclats partout qui sont rentrés dans mes mains. Avec du sang, mais qui était comme séché instantanément en fait. Avec l'explosion, ça a comme cautérisé ma main. Avec des éclats aussi partout au niveau de mes jambes. Avec mes chaussures qui ont comme fondu sur place au niveau des semelles, avec l'effet de l'explosion. Donc ça m'a couvert de lacrymogène, même dans mes vêtements ou autres. Hein. Même plus tard, quand je me suis retrouvé aux urgences, autour de moi, dans la salle d'attente, les gens se frottaient les yeux et étaient éternués parce que j'étais comme couvert de lacrymogène incrusté sur moi. Et puis surtout, enfin là, quand ça a explosé, j'étais totalement sonné et avec un bip continu... au niveau des deux oreilles, et presque sur le coup, j'entendais plus rien. Enfin, j'étais comme assourdi. J'ai passé un audiogramme, et aujourd'hui, l'audiogramme démontre que j'ai, donc sur les fréquences aiguës, un équivalent d'âge de 85 ans en termes d'usure, alors que j'en ai 30. Je vais avoir perdu de l'audition de manière irréversible. Et donc, si vous voulez, au-delà de la perte d'audition en tant que telle, j'ai un bip continu. Plus ou moins fort selon les conditions, la situation environnante. Mais après, au niveau auditif, c'est très gênant parce que c'est aussi et surtout une perte de capacité des fois à bien comprendre. C'est-à-dire que j'entends, mais je décrypte pas forcément des fois les messages. Donc, dans des réunions, par exemple, c'est compliqué. Vous allez avoir un peu de bruit. Vous avez l'effet d'acouphène qui s'accentue. Vous avez là, c'est dans ces conditions-là où j'ai les effets de Larsen qui viennent s'ajouter, mais qui, eux, durent 10-15 secondes. Et là, bah, vous prenez la tête entre les mains, vous attendez que ça passe et ça rend dingue. Même quand simplement il y a une porte qui claque, un bruit important, bon, bah, voilà, ça crée un peu des sursauts, des choses comme ça. Enfin, je pense qu'il va falloir du temps aussi pour que ça passe, si jamais ça passe, en tout cas. Après, je supporte malgré tout, je fais l'effort, je prends sur moi parce que bah, voilà, je peux pas m'arrêter de vivre, mais en tout cas, ça devient extrêmement pénible. Parce qu'en plus c'est pas visible, donc c'est quelque chose qui est aussi dur à expliquer et dur à comprendre pour les autres personnes, parce que c'est toujours difficile à exprimer comme ressenti. Du coup, tout ce que ça induit derrière en termes d'inconnu sur le futur, peut-être que la notion de travail dans cet environnement-là, d'une tour, des transports tels qu'on peut les connaître sur Paris, avec tout ce que ça me provoque aussi comme effet de Larsen, avec ce métier qui implique beaucoup de réunions, des choses de ce type-là, bah ça va m'handicaper. Quand vous arrivez au travail avec un gros bandage autour de la main, je suis assez surpris de voir le nombre de personnes qui posent des questions, parfois de façon, enfin, je trouve assez indiscrète. J'ai préféré, juste dire qu'il m'était arrivé une bricole, un accident, mais sans donner de détails. Parce que c'est vrai que, pourquoi je dis ça, c'est que j'ai été surpris aussi de voir les différents commentaires malveillants d'autres personnes qui finalement se réduisent à dire mais fallait pas être là, ou peut-être que si vous étiez là, vous n'aviez quand même pas que des intentions pacifiques, etc., etc. Il y a une forme de justification qu'on doit apporter sur le fait que non, on n'avait pas une intention de casser du flic, comme certains peuvent dire, ou de casser du mobilier urbain, ou des vitrines, ou de voler, ou de... Non, enfin, c'est pas normal finalement de se rendre dans une zone de manifestation en craignant pour son intégrité, si vous voulez. Autant c'était la première fois que je me rendais aux abords d'une manifestation, autant là, vu ce qui m'est arrivé, ça m'a vraiment donné envie d'y retourner, parce que je trouve ça... Enfin, mes motivations n'ont pas changé sur le fond, mais en plus sur la forme, ayant vécu ça, je trouve ça totalement inadmissible, et j'ai envie d'y être, j'ai envie de voir ce qui se passe de mes yeux. Dernièrement, donc le 15 décembre, oui, j'y suis retourné, j'avais l'entièreté de ma main droite bandée. J'avais bien sûr des bouchons d'oreilles, parce que c'est vrai que là, l'ORL m'a bien dit, là, il n'est pas question que j'ai une autre explosion à proximité. Ça n'a même pas tant suscité d'interrogations que ça, paradoxalement. J'ai plus de questions quand je me rends au travail avec le même bandage et qu'à cet endroit-là, où finalement, les gens comprenaient très bien, en fait. Ils n'avaient même pas besoin de poser la question, qu'ils comprenaient plus ou moins ce qui avait dû m'arriver. Parce que finalement, au cours des différentes semaines passées, il y a eu des blessés systématiquement à chaque fois, et donc et j'étais pas tout seul. D'ailleurs, il y avait d'autres personnes, qui avaient d'autres. On sentait très bien que c'était pas frais du jour. Hein, c'était sûrement des personnes qui avaient été blessées précédemment. Voilà, la disproportion de l'usage de la force, et vous questionnez, vous renseignez, et vous voyez que ça arrive aussi à beaucoup d'autres personnes. Ça vous met plus la rage qu'autre chose. Après, c'est sûr que mon entourage, ils le voient pas pareil, ils m'auraient plutôt dit de rester sagement chez moi. Mais c'est justement ce que je souhaite pas, c'est-à-dire rester dans une démarche totalement pacifique, ça c'est sûr, mais ne pas être intimidé par des méthodes qui sont même anormales à mon goût.
Je m'appelle Devo Philippe, donc je travaille à l'abattoir de Sicarev. Je suis boucher, moi, là-bas. Je suis tâcheron, moi. Je désosse la viande, là-bas. J'ai 40 ans et j'ai un enfant. J'habite à Charlieu, c'est à 20 km de Rouen. Et avant, j'habitais chez mon ex-femme à Vougy. Donc voilà. Première fois que je manifestais, je me suis dit, allez, on y va, ce que l'on va manifester. Et puis surtout, c'était autorisé. À la télé, ils avaient dit, vous pouvez monter sur les Champs-Élysées, c'est bon, on autorise la manifestation. C'était la première fois que j'y montais. À Paris, à 150 mètres de l'Arc de Triomphe. Je l'avais jamais vu. On faisait la fête, on chantait, on rigolait. Il n'y a pas super ambiance. Et d'un coup, 3-4 minutes après, tout arrivait d'un coup. Des grenades, lacrymogènes. Je me suis dit, là, moi qui n'avais jamais manifesté, mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que on ne pouvait plus respirer. J'avais aussi qui piquait. Et ça pétait, pam, pam, pam. Et on en ramassait plein la figure. Franchement, la fumée blanche, il y en avait de partout. Des bombes lacrymogènes. Une fois qu'ils ont lancé ces grenades, ces bombes lacrymogènes, j'ai eu des casseurs qui étaient avec nous, dans le lot. D'un coup, ils se sont mis devant les CRS. Eux aussi, ils balançaient aussi à boire des bouteilles de whisky. Moi, j'hallucinais. J'ai même vu des lance-pierres avec des petites billes en ferraille qui lançaient les casseurs. Il y a un moment, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? Je dis, mais attends, on vient manifester pacifiquement. On est bombardé de partout, puis on ne pouvait pas avancer, pas marche arrière. Donc, ouais, j'étais vraiment coincé, on était vraiment coincé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Quand je ne pouvais pas faire marche arrière, je ne pouvais pas avancer, je me suis mis vers un petit immeuble, vers un mur. Et puis j'attendais, puis je ne bougeais pas, puis je regardais, j'observais, puis voilà. Jusqu'au moment où j'ai reçu cette grenade sur le torse. J'ai cru un gros bruit sourd, pam, un gros bruit. Et là, je voyais les étoiles, je captais plus rien, là, j'étais vraiment dans le coltard, là, j'étais vraiment KO. Là, je regarde mes pieds, c'est vrai que j'étais plein de sang. J'ai du mal à respirer, même. Et j'ai perdu énormément de sang. Donc, j'ai dit, la merde, je suis dans la merde, là. J'ai ramassé quelque chose de violent sur le torse. Et là, il y a un pompier qui est venu, il m'a dit, je m'occupe de vous, j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac, machin. Allongez-vous, mettez les pieds en l'air. Il m'a sauvé la vie, lui. Lui, il m'a sauvé la vie. Et puis après, j'ai été évacué, après, ouais, puis voilà. On m'a fait 3 radios, 3 scanners, et on s'est aperçu que j'avais reçu un plomb, donc qui était rentré dans le cœur, et qui avait fini dans mon poumon. J'ai fait une hémorragie, du moins, dans le poumon. Donc j'ai bien souffert quand même. Hein. Le pompier ne serait pas venu pour m'arrêter l'artère, le sang de l'artère, c'était foutu. Hein. Je suis bouché, c'est de quoi je parle. Hein. En 4-5 minutes, on est mort, hein, une artère. Hein. C'est de l'artère du cœur en plus. Donc, il y a plein de choses qui défilent. Hein. Après, j'ai pensé à mon fils, j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à plein de choses. Hein. Est-ce que j'aurai des séquelles? Est-ce que je vais pouvoir reprendre mon travail? J'en ai pour un moment encore pour récupérer, hein, parce que les poumons, c'est toujours pas ça. Je suis pas sûr de rattaquer mon travail. Mon boulot, c'est pas sûr. Parce que je soulève quand même 10 tonnes par jour de viande. Je suis payé, moi, au poids. Je suis payé à déhausser des cuisses de bœuf ou des avant de bœuf. Voilà, on cumule à la fin de la journée, hein, voilà. Si j'en ai 100, 150, plus j'en ai des os, plus je suis payé. Donc c'est très physique, hein, donc voilà. Et c'est sportif, c'est physique. Il faut soulever, il faut forcer, il faut. Donc maintenant qu'ils m'ont coupé tout mon dorsal, tout mon muscle, pour l'instant, c'est pas possible. Ça, c'est ma grosse inquiétude, ça. C'est ce que je sais faire, voilà, je sais faire que ça, donc. Donc oui, c'est un métier que j'aime et où je gagne ma vie aussi, hein. Je fais mes 2500 euros, 3000 euros par mois. Donc moi, je gagne ma vie. Mais voilà, peut-être que dans quelques mois, on me dira, je peux plus le faire, voilà. Une semaine après, le week-end qui a suivi, donc l'acte 4, il y a 80 personnes de Rouen qui sont parties à Paris manifester. Donc là, je suis retourné le matin, à 2h du matin, avec ma copine. J'étais quand même les allers dire, faites attention à Paris, machin, bon courage, voilà. J'étais content, voilà, qu'il y ait des gens qui allent encore à Paris, voilà. S'il y en a 4-5 mois, si je vais mieux, moi c'est sûr, je retournerai, c'est certain. Je l'ai fait parce que c'est une bonne cause, je l'ai fait pour mon fils plus tard, pour plein de choses, et voilà. Je me rappellerai de cette journée, hein. Je me rappellerai. Et là, j'ai eu le temps de bien penser, hein, où j'en étais dans ma vie. Et... Dans tout ce malheur-là, heureusement, il y a un peu de bonheur qui est revenu après. Hein. Mon ex-femme, peut-être s'en mettre ensemble, on verra. Peut-être. On est monté ensemble manifester à Paris. Elle m'a vu par terre, allongée, ou voilà, elle a cru qu'elle me perdait, hein, voilà, que j'allais mourir. Ça a changé. Ouais, ça nous a changé. Avant, on se prenait la tête pour pas grand-chose, pour les conneries. Bah, tout ça, c'est pas ce que je disais, c'est fini, ça, voilà. Non. C'est peut-être une deuxième chance, peut-être, hein, voilà. Grâce à ça, peut-être, hein, peut-être aussi. Parce qu'on ne serait pas monté à Paris ensemble, bah, peut-être que voilà. On ne s'était pas remis ensemble. C'est vrai que, voilà, tout doucement, ça va de mieux en mieux et qu'on se voit de plus en plus. Non, ouais. Voilà, on voit plus les choses pareilles. J'ai une femme en or. Je ne peux pas dire une femme parce que je ne suis plus marié avec elle, mais j'ai une copine en or, voilà. Et ça fait du bien.
C'était Les Blessés de la GLIF4, un reportage d'Élodie Maillot réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Philippe, Maxime, Christophe, Vanessa, Dominique, Gabriel, Antonio, Antoine, Jean-Marc, Mélodie, Philippe, Ainoa, Pasquale, Ari Halimi, Céline Mocrane et Julia Masse. Et c'est bien sûr Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre.